Avec vous Nathalie Lévy et tout de suite place à l'interview politique.
D'Aurélie Herbemont avec votre invité ce soir Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics.
Bonsoir Olivier Dussopt.
Bonsoir.
Avant d'être ministre, vous étiez au Parti Socialiste. Que répondez-vous à votre ancienne camarade Ségolène Royal qui considère qu'on est dans un régime autoritaire?
Je trouve que les mots sont outranciers et je trouve que comme d'autres, elle participe ainsi à banaliser l'expression de mots exagérés, de formules qui sont outrancières. Et que ça participe aussi à une forme de banalisation de la violence sur la scène politique et dans les mobilisations. Je trouve ça, vous l'avez compris, assez irresponsable. Et cela vient finalement confirmer le fait que lorsqu'on tient de tels propos, lorsqu'on tient de telles positions, on ne peut plus exercer de fonction au nom du gouvernement français.
D'accord, oui, donc vous justifiez effectivement son limogeage ce matin au Conseil des ministres.
Quand on est ambassadeur, on porte la voix de l'État et la politique du gouvernement. Et il y a un certain nombre de principes, dont celui de la loyauté, et celui de l'engagement. Donc ça n'est pas compatible avec des propos politiques.
Alors Ségolène Royal dénonce une réforme des retraites engagée de manière autocratique, le mot là aussi est fort. Et un autre de vos anciens camarades, Jean-Luc Mélenchon, il dit lui que la violence est du côté du pouvoir, il parle de comportement monarchique, j'imagine que là aussi vous êtes choqué par ses propos.
C'est outrancier, et je le répète, je suis assez désespéré de voir un certain nombre de responsables politiques qui n'ont gardé l'expression que le mot politique et pas le mot responsabilité. Nous sommes dans une société qui se radicalise, où la violence se banalise, où il y a des comportements, des remises en cause de la légitimité démocratique et des institutions. Et lorsqu'on est un responsable politique, on a le devoir de veiller à cette concorde et à la sécurité. Je suis assez effaré de voir que, après des actes de violence, violence contre des biens, violence contre des personnes, coupure de courant, ils sont très peu nombreux sur la scène politique, dans les partis dits de gouvernement, à exprimer leur condamnation. Il faut que le gouvernement le fasse, nous le faisons, la majorité le fait. Parfois, nous nous sentons un peu seuls à condamner ce type de violence.
Vous considérez effectivement qu'ils attisent la violence
et la désinhibe.
Il y avait une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites avec un peu plus de monde que la dernière fois. 249 000 personnes dans les rues aujourd'hui selon la police, 1,3 million selon la CGT. Il y aura une nouvelle journée d'action mercredi prochain. Ce rebond vous inquiète?
Non, nous sommes toujours sur une mobilisation qui doit être entendu, à laquelle nous faisons attention, mais qui reste sur des mouvements relativement bas. Il y a d'autres
relativement
indicateurs.
Basse, d'accord.
Il y a d'autres indicateurs. Je pense notamment au taux de grève dans la fonction publique, qui aujourd'hui est très légèrement supérieur à 4%, à comparer avec les 26% du 5 décembre. Et c'est une baisse continue de cette mobilisation. Ça ne signifie pas qu'il faut crier victoire. Il faut continuer à entendre un certain nombre de messages, d'apporter des réponses. Je pense que l'examen du texte par le Conseil des ministres ce matin, le fait qu'il soit ensuite examiné par les commissions, le fait que nous travaillons avec toutes les organisations syndicales qui le souhaitent, qui souhaitent avancer sur des questions aussi importantes que la pénibilité, que l'aménagement des fins de carrière et l'emploi des seniors, des questions aussi importantes que la manière dont on organise la transition et dont on garantit les droits des assurés du système de retraite, tout ça est de nature à apporter des réponses.
Vous espérez encore pouvoir convaincre, même si des gens sont mobilisés depuis plus d'un mois et demi?
Bien sûr, et le rôle d'un gouvernement est à la fois de convaincre, de défendre une réforme qui est une bonne réforme, qui est une réforme...
Tout le monde n'en est pas convaincu, visiblement.
Oui, et j'invite d'ailleurs à lire d'autres propos, d'autres écrits que les nôtres, puisqu'il faut avoir aussi des tiers, qu'on va qualifier de tiers de confiance. Il y a un certain nombre d'études qui sortent actuellement et qui expliquent que cette réforme sera plus redistributrice, qu'elle sera plus solidaire. Nous ne sommes pas seuls à le dire, la CFDT l'avait dit, et nous allons faire en sorte que, avec ce système universel, il y ait de la lisibilité, il y ait de la durabilité, de la solidité du système, mais il y a aussi qu'il y ait plus de justice en faveur de ceux qui ont des carrières précaires ou hachées.
Alors, vous vous occupez spécifiquement des fonctionnaires, Olivier Dussopt. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une question très précise. Pour ceux qui sont nés entre 1975 et 2003, qui auront donc une carrière à cheval entre le système actuel et le futur régime universel, ils réclament, comme pour la SNCF et la RATP, ce qu'on appelle la clause à l'italienne, c'est-à-dire que leur pension soit calculée comme dans le système actuel sur les 6 derniers mois de salaire. Est-ce qu'ils vont obtenir gain de cause?
Il y a plusieurs hypothèses de travail. Une première hypothèse consiste à faire une photographie de la carrière des agents publics au moment où ils changent de système, normalement le 31 décembre 2024. Et puis à additionner à la fin de leur carrière professionnelle cette première partie acquise et puis la partie ensuite cotisée dans le nouveau système. Le rapport de Jean-Paul Delevoye, et pardonnez-moi c'est un peu technique, avait proposé de faire une photographie décalée en tenant compte de 3 ans ou 6 ans supplémentaires en termes de projection pour tenir compte d'un éventuel, enfin d'un très certain même, avancement d'échelon, puisque la durée d'avancer, le délai, pardon, pour avancer d'un échelon est de 3 ans. Il y a enfin une hypothèse que vous avez qualifiée de clause à l'italienne. En termes techniques, on parle d'affiliation, de régime d'affiliation successive.
D'accord.
Qui consiste à là aussi geler les droits au 31 décembre 2024, Mais lorsque l'agent liquidera ses droits à la retraite lors de son départ à la retraite, de faire une projection pour voir comment ces droits ont évolué.
Et ils ont peur d'y perdre aujourd'hui, système. Les fonctionnaires.
Nous, notre engagement, c'est de faire en sorte que les droits acquis soient parfaitement conservés et soient parfaitement garantis. Donc aujourd'hui, nous travaillons.
C'est un scénario que vous étudiez en tout cas.
Nous l'étudions et j'ai noté que l'intégralité des organisations syndicales, et je le répète, celles qui acceptent de participer aux discussions et d'être constructives pour garantir le droit des agents.
La CFDT et l'UNSA, notamment, disent, elles comptent sur vous pour... elles ont compris, quand elles vous ont vu en début de semaine, que vous alliez accéder à cette demande.
Elles ont fait preuve d'unanimité pour la défendre et nous leur avons dit que nous le regardions avec attention.
Regardez avec attention et donc à suivre aux prochains épisodes. Autre sujet sur lequel vous travaillez, c'est la pénibilité. Est-ce que, prenons le cas d'infirmières ou d'aides-soignants qui sont à l'hôpital public, est-ce qu'ils pourront partir plus tôt à la retraite avant 62 ans grâce à des critères de pénibilité quand ils travaillent la nuit notamment ?
Pardonnez-moi d'être un nouveau technique, mais aujourd'hui la situation des infirmiers et la situation des aides-soignants n'est pas la même. Il y a quelques années, l'État a proposé, c'était un autre gouvernement, mais nous tenons la parole de l'État, a proposé aux infirmiers qui étaient alors catégorie B et qui bénéficiaient d'un départ anticipé de 5 ans, de passer en catégorie A et donc d'être un peu mieux rémunérés, mais de perdre le bénéfice du départ anticipé. Certains ont décidé de rester catégorie B pour partir plus tôt. Nous leur garantissons ce droit, quelle que soit leur année de naissance. Les aides-soignants de l'hôpital public sont dans une situation différente, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle une catégorie active, avec un départ anticipé. Et actuellement, Agnès Buzyn travaille avec leurs représentants, les employeurs hospitaliers, pour voir comment tenir compte des difficultés inhérentes au métier d'aide-soignant. Il y a des manipulations de patients, il y a donc des poids relativement lourds à déplacer. Ça n'est pas faire offense aux patients de dire ça, mais c'est leur quotidien. Donc Agnès Buzyn travaille à cela, et nous le faisons en ayant en tête qu'actuellement, il y a aussi des aides-soignants dans le secteur privé qui sont très mal pris en charge par les dispositifs de pénibilité et qui ne bénéficient pas de ce qui existe dans la catégorie
publique. Vous voulez en tout cas vous avancer sur ces sujets-là.
On veut avancer, on veut trouver une solution et on veut faire en sorte que les aides-soignants du secteur public comme du secteur privé soient traités de la même manière puisque un de nos objectifs est de veiller à ce qu'il y ait le maximum de convergence entre le secteur public et le secteur privé. Vous avez évoqué le travail de nuit. Aujourd'hui, il y a des agents publics qui ne sont pas reconnus comme catégorie active parce que la catégorie active, ça s'applique à un corps, un cadre d'emploi, c'est très administratif, qui sont veilleurs de nuit dans des services de l'État, des préfectures, qui n'ont aucune prise en charge de leur pénibilité. Demain, avec ce que nous mettons en place, ils bénéficieront des dispositifs du compte de prévention.
Eh bien, merci beaucoup, merci. Olivier Dussopt, d'avoir été mon invité. Hélas, nous n'avons pas le temps de poursuivre plus longtemps.
Ce sera pour une prochaine fois.
Une prochaine fois.